Chers sœurs et frères en Christ, j'espère que vous avez eu cet été l'occasion de partager un bon repas avec de bonnes amies. Vous serez d'accord avec moi que partager un bon repas avec des proches, des amis, c'est toujours un moment de bonheur. Ça fait partie de ces bons moments de la vie, de goûter simplement à la joie d'être ensemble, à l'amitié, à la gratuité, un bon verre de vin, des propos qui font rire et réfléchir ou qui parlent de tout et de rien. Ces repas-là ne font partie de meilleurs moments de la vie, peut-être. Oui, le repas en commun offre ces occasions si humaine mais si précieuse de se trouver ensemble et de vivre un moment de bonheur partagé. Les évangiles sont unanimes là-dessus que dans la vie de Jésus, le repas partagé avec d'autres a été quelque chose de très important pour Jésus. Vous savez comme moi que les évangiles racontent souvent que Jésus se laisse inviter pour un repas, comme dans le texte de ce soir. À la différence de Jean-Baptiste, à qui Jésus était proche, qui était en quelque sorte peut-être son maître spirituel, lui qui était ascète, qui vivait dans le désert, Jean-Baptiste, et mangeait que des sauterelles, nous disent les textes. Jésus aime se trouver au milieu des gens et partager un repas ordinaire, un repas de fête avec eux, pour échanger, pour rire, pour boire du bon vin. Et là, je n'exagère en rien. Preuve, cette parole de Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, vous pouvez vérifier votre pasteur, où Jésus dit ceci: Jean-Baptiste est venu, dit Jésus donc, il ne mange pas, il ne boit pas de vin, et on lui dit, il est possédé par un esprit mauvais. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu, il mange et boit, et l'on dit, voyez cet homme qui ne pense que à manger et boire du vin, qui est ami de collecteurs d'impôts et des autres gens de mauvaise réputation. Et Jésus, d'ailleurs, de conclure avec cette superbe mot, mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets, par ses repas. Quant à Gruel de Jésus, la sagesse de Dieu se révèle aussi là. Paul dira à sa manière, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, ou la folie des hommes est sagesse pour Dieu. Ça se vérifie aussi quand on lit les paraboles de Jésus. Dans beaucoup de paraboles, un certain nombre, il parle des repas de noces, au repas d'un roi, et à travers cela, Jésus veut nous parler du royaume de Dieu. C'est-à-dire, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose dans le ciel, ou éloigné de notre réalité. Le royaume de Dieu, pour Jésus, est aussi quelque chose de très incarné, convivial. C'est la joie d'être ensemble, se faire du bien, corps et âme, s'écouter aux bonnes choses de la vie. Le repas partagé et joyeux est une des images préférées de Jésus pour nous parler de ce qui est le royaume de Dieu, vers lequel il nous invite à marcher, ce rêve de Dieu pour nous les hommes, vers lequel Dieu veut orienter nos vies. Donc ça n'a rien de salut individuel ou purement spirituel, c'est la joie partagée entre les hommes, une réalité fraternelle, c'est être ensemble, un moment de partage, de nourriture, de parole. Voilà aussi ce qui est le royaume de Dieu pour Jésus. Or, dans la Palestine du temps de Jésus, les réformateurs religieux que sont les pharisiens, parce que les pharisiens sont d'abord de réformateurs religieux qui veulent retourner vers la volonté de Dieu, le mettre en pratique, c'est justement que le repas partagé est devenu un lieu d'exclusion, un lieu qui complique les relations humaines pour des motifs religieux, parce que les règles de pureté, surtout autour de la nourriture, aussi de se laver la main, de se laver tout ce qu'on utilise pour manger, était tellement compliqué, et le pharisien voulait suivre tout à la lettre, tel qu'il était écrit dans le livre, notamment de Lévitique, ce qui pour le commun des mortels était impossible à pratiquer. Mais le pharisien s'efforce d'être le plus pur possible et de vivre le plus strictement selon la loi de Moïse. Et il refusait, et c'est ça qui est important, de manger à une même table avec ceux qui n'en faisaient pas autant. Pour eux, le repas ensemble était devenu un lieu de tri entre les vrais enfants d'Abraham et les autres, les vrais purs et les impurs, les justes, eux, les pharisiens, et les autres, qui n'étaient donc pas bienvenus, exclus de leur repas commun. C'est clair qu'entre la vision de Jésus et la vision des pharisiens, il ne peut qu'avoir un clash en quelque sorte. Et ce qui se passe, et la page de l'évangile de Luc nous en parle aujourd'hui. Jésus est invité au cours d'un repas par des pharisiens, même un chef de pharisiens, et c'est le jour du sabbat. À sa manière incroyable, on est trop habitué au texte de l'évangile, mais Jésus, en quelques paroles et par une guérison, va les interpeller sur des questions extrêmement profondes de c'est quoi finalement rendre culte à Dieu. C'est quoi le plus important, le sacré, le religieux ou l'humain? Cela va très loin comme question. Mais aussi la question de notre besoin si profond de vouloir être bien vu des autres. Et si on peut de prendre la première place, même devant Dieu, d'être bien vu de Dieu. Là aussi, Jésus a une interpellation forte à faire. Et troisièmement, quelle communauté nous voulons être? Des communautés fermées, peut-être même au nom de Dieu, comme font les pharisiens, ou une communauté ouverte qui accueille les autres, différents de nous socialement, culturellement, voire religieusement. Revenons à l'évangile du jour. Ils invitent Jésus, ou les chefs de pharisiens, un jour de sabbat, à sa table dans sa maison. C'est comme s'ils veulent lancer ces pharisiens un défi à ce rabbi un peu différent, original de Galilée, venu de nulle part, d'un petit village, ce rabbi réputé pour sa libéralité, qui mange avec tout le monde, qui mange avec le bas peuple, qui a toujours des femmes autour de lui. Ce Jésus qui est certes sympa, original certainement, qui parle bien, indéniablement, mais qui n'est pas très orthodoxe et qui met un peu en danger l'ordre religieux et social. Et ça, il pense qu'il faut bien mieux mettre ce jeune rabbi un peu à sa place. Bien, Jésus les intrigue, même s'il les dérange encore plus. Et voilà qu'il est parmi eux, un jour de sabbat, et Luc, vous l'avez entendu, dit qu'ils observent tous Jésus. Est-ce qu'il va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il va nous sortir quelque chose où on va l'attaquer avec la loi de Moïse, n'est-ce pas? Ils vont être servis, mais autrement qu'ils pensent. Le regard de Jésus lui-même se porte ailleurs, faire un serviteur obèse. Le texte dit qu'il souffre d'une maladie qui le fait enfler, ne dit pas plus. Et Jésus de poser cette question, est-ce que la loi de Moïse permet de guérir un homme le jour du sabbat ou non? Personne répond, surpris par cette question, le regard se tourne vers cet homme obèse. Il ne répond de rien, et Jésus, le texte dit qu'il prend cet homme, je pense qu'il le prend dans ses bras, cet homme obèse, le guérit et le renvoie. Et après, Jésus, comme pour se justifier, mais à sa manière, avec une phrase qui laisse encore baba et silence les pharisiens, si l'un de vous a un fils, Jésus ajoute même un bœuf, qui tombe dans un puits le jour de sabbat, vous n'allez pas le sauver. Bien sûr, si on a un fils qui tombe dans un puits, on va le sauver. Donc peut-être même le bœuf. Ils répondent à nouveau, rien, silence. Il y a de quoi à réfléchir là. Le sabbat, si sacré pour le juif, ce que l'être humain au fond n'est pas plus important. Jésus un jour le résume dans une phrase tellement forte et étonnante. L'homme n'est pas là pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Est redevenu en quelque sorte le sacré. Est-ce que le sacré là est que pour le sacré et l'homme doit en être étouffé? Ou est-ce que le sacré est là pour l'homme, pour que l'homme puisse s'épanouir sous le regard de Dieu? Le vrai culte à rendre à Dieu pour Jésus n'est pas dans plein d'observances religieuses, peut-être toutes sortes aussi pour nous, des rites de piété, mais convictions bien protestantes. Jésus dit, lequel le vrai culte à rendre à Dieu, c'est dans ce que tu fais pour ton prochain, surtout celui en détresse qui souffre. C'est dans le commandement de l'amour. Cela prime sur tout le reste. Et nous le savons, ce message de Jésus. Mais l'important de se rappeler cela toujours. Le vrai culte que Jésus nous demande, c'est notre attitude vers l'autre, celui à côté de nous, celui qui souffre. Et cela est radical en termes de religion. Je pense avec Jésus. Les pharisiens, il y a un silence qui s'installe à la table, ils sont de quoi réfléchir. Et Jésus reprend la parole. C'est rare d'ailleurs que Jésus se laisse, qu'il prend lui-même la parole. Il y a des choses à dire ce jour-là. Il parle d'un repas de noces où quelqu'un a voulu prendre une place bien en vue, la première place, sans doute proche des mariés. Vous connaissez un peu, hein, en France, on a bien placé les gens d'ailleurs, c'est très important, un jour de repas de noces. Mais le maître de cérémonie amène cette personne dans une dernière place. Il n'était pas à sa bonne place, mais une dernière place, à sa propre honte. On comprend. Et Jésus doit donner le conseil, mieux prendre une place modeste pour qu'on te soit amené à une place importante, tu t'en sortiras bien mieux. Ah, avec un tel exemple si simple, Jésus touche quelque chose en chacun de nous, ce besoin d'être bien vu des autres, ce besoin de prendre la première place si on peut, socialement dans la société, d'avoir la plus belle voiture, plus belle que les autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on investit là-dedans? C'est incroyable, honteux, je dirais, qu'est-ce que ça coûte des grandes voitures? Mais c'est quand même pour être très... homme, très viril, mais les femmes aussi aiment ça. Des grandes voitures, n'est-ce pas? Il y a plein de choses dans notre société. Imposer son prestige social, prendre la première place. Mais je pense que l'interpellation de Jésus, qui trouve que là il y a quelque chose dont on dit, mais sous le regard de Dieu, ça signifie quoi tout ça, ta grande voiture? Je pense que Jésus va interpeller les pharisiens encore plus loin. Il dit, mais vous voulez prendre aussi la première place auprès de Dieu. Par votre comportement strictement selon la loi, toutes ces règles, vous pensez que par cela, vous êtes effectivement plus exemplaire au-delà des autres et qui en font moins. Et vous pensez que par votre comportement, vous ajoutez du religieux à des religieux et des observations religieuses, que vous obtenez de meilleures places auprès de Dieu. Illusion totale, dit Jésus aux pharisiens. Tout cet effort religieux parfois de multiplier des rites, comme au Moyen-Âge, les messes pour la mort, on a multiplié, jusqu'à l'arrivée de Luther. Mais c'est dans toute religion. On fait des choses pour Dieu, pour obtenir un Dieu favorable. Ah, c'est profond dans l'homme. même en chacun de nous, je pense, en quelque sorte. Ah, si je prie fort et avec beaucoup d'émotion, Dieu va répondre. Ah, comme si le décibel d'émotion, dans certains milieux, ça existe, vous le savez comme moi. Si on ajoute encore, voilà, Dieu va nous entendre. Jésus dit autre chose. Il dit d'ailleurs clairement dans cette phrase, à la fin, il dit « Mais celui qui sera abaissé sera élevé, et qui sera élevé sera abaissé. » C'est au passif tout ça. On ne dit pas qui va élever finalement. Mais je pense que vous avez compris, c'est Dieu. C'est un passif divinum en texte critique littéraire. Mais parce que les Juifs n'aimaient pas prononcer le nom de Dieu, donc c'est toujours un passif, mais c'est bien Dieu. Donc Jésus dit aussi pharisien, mais celui qui s'élève sera abaissé par Dieu. Parce que Dieu voit d'abord les humbles, ceux qui ne sont pas ostentatoires dans leur religiosité. J'aime bien cette sobriété dans la manière de prier des réformés. Bien que j'aime bien aussi les évangéliques qui prient beaucoup ensemble les uns pour les autres, ou les charismatiques. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on y met parfois énormément d'émotions, comme si ça fait forcer Dieu. C'est un peu magique, je trouve. Jésus est très sobre dans sa prière. Il dit, mais priez avec peu de mots. Et pas toutes ces émotions-là. J'aime bien parfois cette... Je pense que les réformés peuvent prier plus parfois, aussi les uns pour les autres, par exemple. On ne fait pas assez. Mais cette sobriété dans la prière, parce qu'on ne va pas forcer Dieu en nous jetant plus d'émotions dans notre prière, me semble très important. Jésus n'a pas tout dit. Il dit encore une dernière chose. Le troisième sujet qu'il aborde, il prend à nouveau la parole et cette fois, il dit à celui qu'il a invité, un peu gonflé de Jésus quand même, hein, il dit, mais bon, tu as invité tes amis et moi aussi, pour une fois. Mais tu aurais dû peut-être mieux faire d'inviter les boiteux, les infirmes, les pauvres. Un repas de fête. Dieu te le rendra. Humainement, est-ce que quand on organise une fête, on fait comme ça? Non. Jésus passe déjà à un stade. Il parle ici, je pense... Et pourtant, on devrait peut-être. Si on veut faire venir le royaume, on devrait peut-être inviter comme ça. C'est bien que le repas des caspes 5 fois par an existe. Où nous, protestants et catholiques ensemble, on s'organise pour un repas pour les gens dans la rue. Et ils sont 50, 60, 80. Des églises font ça. Nous et ailleurs. C'est signe du royaume tel que Jésus l'a. C'est signe du royaume. Jésus le fait lui-même. Il invite à la table du Seigneur ceux qui sont en marge, ceux qui sont loin. Parce que c'est signe du royaume. Il dit surtout autour de repas. Parce que pour Jésus, ce Dieu est un Dieu inclusif. Et surtout autour du repas, il faut que tous soient invités. Et que le repas ne soit pas un lieu d'exclusion. Et on peut s'étonner comment l'Église, dans l'histoire, a fait du repas de Jésus, justement, que nous célébrons avec un peu du pain, un peu du vin, un lieu d'exclusion si souvent, entre les Églises. Entre dire « ceux sont des purs » et « ça sont des impurs ». »« Ça sont des catholiques et ça sont des non-catholiques, des anglicans, des non-anglicans. » Et pensons pas sur le même Calvin à Genève, utilisait la Sainte-Seine pour excommunier tous ceux qui, pendant la semaine, n'avaient pas forcément ceux qui veulent danser, peut-être jouer au Scrabble ou je ne sais pas quoi, faire des choses que, selon la morale de l'Évangile, version Calvin, et Calvin les excluait de la Sainte-Seine le dimanche après. Et nos calvinistes, nos ancêtres, quand même, l'ont fait encore longtemps, d'ailleurs. Je pense jusqu'au 19e siècle et début du 20e siècle. Nous ne pensons pas que c'est seulement les catholiques qui excluent de la Sainte-Seine, n'est-ce pas? Là où Jésus veut que le repas soit ce moment de se réjouir ensemble sous le regard de Dieu. Voilà. Et je termine avec ces repas Oui, où nous sommes invités au repas de Jésus, mais nous y venons aussi comme des, je pense un peu comme des boiteux, des aveugles, invités par Jésus. Parce que dans la relation à l'autre, pour aimer vraiment l'autre, nous sommes tous des pauvres, je pense. Nous avons du mal. Il y a ceux qu'on arrive à aimer un peu plus facilement que d'autres, mais si nos proches, souvent c'est assez difficile d'aimer vraiment nos proches, n'est-ce pas? Dans la famille, qu'est-ce qu'il peut y avoir de tension entre frères et sœurs, par exemple? Dans le couple, nous sommes tous, je pense, comme des aveugles, des pauvres, des boiteux en amour, mais tous nous sommes invités par Jésus chaque fois à nouveau. Et nous avançons comme des boiteux et des aveugles. Et nous nous mettons en cercle, tous égaux devant Dieu, tous à la première place au repas de Jésus, parce qu'il nous invite ainsi. Et pour terminer, nous vivons quelque chose de fort et de beau dans notre paroisse, qui est assez rare, c'est ce repas après nos cultes. Là encore dans le temps de vacances, mais à part le tir du culte de rentrée, ça va reprendre. Ce temps de repas après le culte de soir et aussi le matin à Pentemont. Mais là, ça c'est un trésor. Parce que c'est l'esprit de Jésus. C'est cette table ouverte où tous sont invités, on veut accueillir tous à ce temps-là. C'est un temps fraternel de se rencontrer, et je vous engage, je vous invite à y participer. C'est quelque chose de très précieux de ce que nous vivons. C'est tellement proche de l'Évangile, mais aussi bien pour la vie communautaire. Ce monde se réjouir ensemble, même autour d'un repas très simple le soir, c'est parfois très simple, le matin aussi. Mais l'important, c'est ailleurs, bien sûr. Mais c'est un petit trésor que nous est donné là, comme nous, paroisse de Pendant-Luxembourg, et prenons-en soin, parce que c'est tellement au cœur de la pensée de Jésus, ce qu'il nous a proposé autour du repas. C'est un moment de joie fraternelle, d'accueil de tous. Amen.
Nous allons chanter « Dieu fait de nous en Jésus-Christ ». On va l'afficher, je pense, Moïse. Les quatre couplets. Dieu.